Commission des Grundgesetzes, State Examinations Commission, Leaving Certificate Examination 2004.
Français. Niveau ordinaire et supérieur. Épreuve de compréhension auditive. Section 1. Lisez maintenant les instructions pour la section 1.
Salut Isabelle, dis donc, ça va? Tu es toute pâle?
Non, ça ne va pas vraiment, Christophe. Je suis toujours sous le choc de ce qui m'est arrivé ce matin.
Quoi? T'as eu un accident?
Non, non, pas du tout. Non, mais j'ai eu une très mauvaise expérience dans un magasin.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, je voulais acheter un cadeau pour papa, c'est son anniversaire demain. Et j'ai décidé de lui acheter un portefeuille. Alors, je suis entrée dans la maroquinerie rue Voltaire. Tu connais?
Oui, oui, je connais très bien ce magasin.
Alors, j'étais en train de regarder les portefeuilles quand j'ai réalisé que j'avais oublié de passer à la banque pour prendre de l'argent. Et j'étais sur le point de quitter le magasin quand un employé s'est approché de moi et m'a demandé de le suivre.
Pourquoi il t'a demandé ça?
Il paraît qu'il me soupçonnait d'avoir volé quelque chose. J'ai dû le suivre dans un petit bureau où il y avait une autre employée qui m'a demandé d'ouvrir mon sac. Bon, rien trouvé, bien sûr.
Il s'est excusé, le type?
Oui, et il m'a expliqué que je sortais à peine une minute après être entrée dans le magasin et que j'avais l'air très pressée.
Mais ce n'est pas une raison. C'est scandaleux, cette histoire. Écoute, Isabelle, à mon avis, tu devrais y rentrer tout de suite et demander à voir le patron.
Tu crois?
Absolument. Allez, on y va tous les deux, d'accord? Salut Isabelle, dis donc, ça va? Tu es toute pâle?
Non, ça ne va pas vraiment, Christophe. Je suis toujours sous le choc de ce qui m'est arrivé ce matin.
Quoi? T'as eu un accident?
Non, non, pas du tout. Non, mais j'ai eu une très mauvaise expérience dans un magasin.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, je voulais acheter un cadeau pour papa, c'est son anniversaire demain, et j'ai décidé de lui acheter un portefeuille. Alors, je suis entrée dans la maroquinerie rue Voltaire, tu connais?
Oui, oui, je connais très bien ce magasin.
Alors, j'étais en train de regarder les portefeuilles quand j'ai réalisé que j'avais oublié de passer à la banque pour prendre de l'argent. Et j'étais sur le point de quitter le magasin, quand un employé s'est approché de moi et m'a demandé de le suivre.
Pourquoi il t'a demandé ça ?
Il paraît qu'il me soupçonnait d'avoir volé quelque chose. J'ai dû le suivre dans un petit bureau où il y avait une autre employée qui m'a demandé d'ouvrir mon sac. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr.
Il s'est excusé, le type ?
Oui. Et il m'a expliqué que je sortais à peine une minute après être entrée dans le magasin et que j'avais l'air très pressée.
Mais ce n'est pas une raison. C'est scandaleux, cette histoire. Écoute, Isabelle, à mon avis, tu devrais y rentrer tout de suite et demander à voir le patron.
Tu crois ?
Absolument. Allez, on y va tous les deux, d'accord ? Salut Isabelle. Dis donc, ça va ? Tu es toute pâle ?
Non, ça ne va pas vraiment, Christophe. Je suis toujours sous le choc de ce qui m'est arrivé ce matin.
Quoi ? T'as eu un accident ?
Non, pas du tout. Non, mais j'ai eu une très mauvaise expérience dans un magasin.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, je voulais acheter un cadeau pour papa. C'est son anniversaire demain. Et j'ai décidé de lui acheter un portefeuille. Alors, je suis entrée dans la maroquinerie rue Voltaire. Tu connais ?
Oui, je connais très bien ce magasin.
Alors, j'étais en train de regarder les portefeuilles quand j'ai réalisé que j'avais oublié de passer à la banque pour prendre de l'argent. Et j'étais sur le point de quitter le magasin quand un employé s'est approché de moi et m'a demandé de le suivre.
Pourquoi il t'a demandé ça ?
Il paraît qu'il me soupçonnait d'avoir volé quelque chose. J'ai dû le suivre dans un petit bureau où il y avait une autre employée qui m'a demandé d'ouvrir mon sac. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr.
Il s'est excusé, le type ?
Oui. Et il m'a expliqué que je sortais à peine une minute après être entrée dans le magasin et que j'avais l'air très pressée.
Mais ce n'est pas une raison. C'est scandaleux, cette histoire. Écoute, Isabelle, à mon avis, tu devrais y rentrer tout de suite et demander à voir le patron.
Tu crois ?
Absolument. Allez, on y va tous les deux, d'accord ?
Section 2. Maintenant, lisez les instructions pour la section 2. Aujourd'hui, les Français ne sont pas les seuls à rechercher leur coin de paradis entre les quatre murs d'une vieille ferme. Nos voisins européens trouvent aussi dans l'Hexagone des campagnes moins peuplées et surtout moins chères que dans leur pays d'origine. Les Allemands se concentrent dans le nord-est et dans le sud-est, et les Néerlandais dans le centre, en Bourgogne, et dans le sud. Les Britanniques, eux, couvrent tout le territoire, et en 2000, ils représentaient un quart des acquéreurs étrangers en France, en hausse de 13% depuis 1994. En Basse-Normandie, en dehors des grandes villes, 30% des maisons sont achetées par des Anglais aujourd'hui. Le phénomène prend une telle ampleur qu'une commune va bientôt ouvrir une école anglophone. Et le marché est tellement dynamique que des étrangers s'installent en France pour ouvrir des agences immobilières. On remarque aussi que la population qui constitue cette nouvelle immigration évolue. On voit moins de retraités, plus de jeunes ménages avec enfants en bas âge. Et, de plus en plus, ils font de leur résidence secondaire une résidence principale. Aujourd'hui, les Français ne sont pas les seuls à rechercher leur coin de paradis entre les quatre murs d'une vieille ferme. Nos voisins européens trouvent aussi dans l'Hexagone des campagnes moins peuplées et surtout moins chères que dans leur pays d'origine. Les Allemands se concentrent dans le nord-est et dans le sud-est, et les Néerlandais dans le centre, en Bourgogne, et dans le sud. Les Britanniques, eux, couvrent tout le territoire et en 2000, ils représentaient un quart des acquéreurs étrangers en France, en hausse de 13% depuis 1994. En Basse-Normandie, en dehors des grandes villes, 30% des maisons sont achetées par des Anglais aujourd'hui. Le phénomène prend une telle ampleur qu'une commune va bientôt ouvrir une école anglophone. Et le marché est tellement dynamique que des étrangers s'installent en France pour ouvrir des agences immobilières. On remarque aussi que la population qui constitue cette nouvelle immigration évolue. On voit moins de retraités, plus de jeunes ménages avec enfants en bas âge. Et, de plus en plus, ils font de leur résidence secondaire une résidence principale. Aujourd'hui, les Français ne sont pas les seuls à rechercher leur coin de paradis entre les quatre murs d'une vieille ferme. Nos voisins européens trouvent aussi dans l'Hexagone des campagnes moins peuplées et surtout moins chères que dans leur pays d'origine. Les Allemands se concentrent dans le nord-est et dans le sud-est, et les Néerlandais dans le centre, en Bourgogne, et dans le sud. Les Britanniques, eux, couvrent tout le territoire et en 2000, ils représentaient un quart des acquéreurs étrangers en France, en hausse de 13% depuis 1994. en Basse-Normandie, en dehors des grandes villes, 30% des maisons sont achetées par des Anglais aujourd'hui. Le phénomène prend une telle ampleur qu'une commune va bientôt ouvrir une école anglophone. Et le marché est tellement dynamique que des étrangers s'installent en France pour ouvrir des agences immobilières. On remarque aussi que la population qui constitue cette nouvelle immigration évolue. On voit moins de retraités, plus de jeunes ménages avec enfants en bas âge. Et, de plus en plus, ils font de leur résidence secondaire une résidence principale. Section 3. Lisez maintenant les instructions pour la section 3.
Comment décrire la qualité des installations sportives, le climat chaleureux et l'organisation scrupuleuse et efficace? Entrer dans un stade pour la cérémonie d'ouverture devant 75 000 spectateurs restera gravé dans ma mémoire et dans celle de tous nos sportifs présents.
Frédéric n'étant pas dans une institution, il n'a accès à aucune activité sportive. Special Olympics lui a donné l'opportunité de vivre de grands moments d'émotion avec d'autres personnes. Et je sais que ça a été quelque chose d'extraordinaire pour lui.
Notre entreprise souhaitait soutenir Special Olympics en encourageant nos employés à participer en tant que bénévoles lors de ces Jeux à Dublin. Se retrouver tous ensemble, tous milieux confondus et sans hiérarchie pour une même cause a été pour moi une expérience inoubliable.
J'ai passé 15 jours avec la délégation française. Ce que j'ai trouvé très bien, c'était que chaque sportif, quelle que soit sa performance, gagne quelque chose. Mais quelle tristesse de les quitter tous à la fin. C'était affreux.
Comment décrire la qualité des installations sportives, le climat chaleureux et l'organisation scrupuleuse et efficace? Entrer dans un stade pour la cérémonie d'ouverture devant 75 000 spectateurs restera gravé dans ma mémoire et dans celle de tous nos sportifs présents.
Frédéric n'étant pas dans une institution, il n'a accès à aucune activité sportive. Special Olympics lui a donné l'opportunité de vivre de grands moments d'émotion avec d'autres personnes. Et je sais que ça a été quelque chose d'extraordinaire pour lui.
Notre entreprise souhaitait soutenir Special Olympics en encourageant nos employés à participer en tant que bénévoles lors de ces Jeux à Dublin. Se retrouver tous ensemble, tous milieux confondus et sans hiérarchie pour une même cause a été pour moi une expérience inoubliable.
J'ai passé 15 jours avec la délégation française. Ce que j'ai trouvé très bien, c'était que chaque sportif, quelle que soit sa performance, gagne quelque chose. Mais quelle tristesse de les quitter tous à la fin. C'était affreux.
Comment décrire la qualité des installations sportives, le climat chaleureux et l'organisation scrupuleuse et efficace? Entrer dans un stade pour la cérémonie d'ouverture devant 75 000 spectateurs restera gravé dans ma mémoire et dans celle de tous nos sportifs présents.
Frédéric n'étant pas dans une institution, il n'a accès à aucune activité sportive. Special Olympics lui a donné l'opportunité de vivre de grands moments d'émotion avec d'autres personnes. Et je sais que ça a été quelque chose d'extraordinaire pour lui.
Notre entreprise souhaitait soutenir Special Olympics en encourageant nos employés à participer en tant que bénévoles lors de ces Jeux à Dublin. Se retrouver tous ensemble, tous milieux confondus et sans hiérarchie pour une même cause a été pour moi une expérience inoubliable.
J'ai passé 15 jours avec la délégation française. Ce que j'ai trouvé très bien, c'était que chaque sportif, quelle que soit sa performance, gagne quelque chose. Mais quelle tristesse de les quitter tous à la fin. C'était affreux.
Section 4. Lisez maintenant les instructions pour la section 4. L'ONU a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant le 20 novembre 1989. Elle a été ratifiée par 190 pays, à l'exception des États-Unis et de la Somalie. Mais cet accord n'a pas vraiment amélioré la situation des enfants partout dans le monde. Paul Ariès, expliquez-nous pourquoi.
La Convention internationale de 1989 a révolutionné notre vision de l'enfant. Il a désormais des droits face aux adultes. Par exemple, en France, un jeune peut, jusqu'à 25 ans, exiger que ses parents pourvoient à ses besoins. En Allemagne, des ados ont intenté un procès à leurs parents sous prétexte qu'ils entraient dans leur chambre et fouillaient dans leurs affaires. Cet exemple paraît extrême, peut-être, mais il prouve à quel point les mentalités et les droits ont évolué en Europe.
Mais dans les pays du tiers-monde, la situation est bien différente, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai. Dans les textes de la Convention, par exemple, l'enfant a droit à la santé. Mais si les médicaments génériques ne sont pas vendus dans ces pays, peut-on considérer que les droits de ces enfants sont respectés? Prenez un autre droit, celui aux jeux et aux loisirs. Le problème, là, c'est que la Convention n'interdit pas l'enrôlement dans les armées à partir de 15 ans. Résultat, le nombre d'enfants soldats ne diminue pas. Alors, on voit bien que la réalité est bien éloignée de la situation idéale des textes de la Convention. Et c'est clair qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de considérer que tous les enfants naissent et demeurent égaux en droit.
Merci, Paul. L'ONU a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant le 20 novembre 1989. Elle a été ratifiée par 190 pays, à l'exception des États-Unis et de la Somalie. Mais cet accord n'a pas vraiment amélioré la situation des enfants partout dans le monde. Paul Ariès, expliquez-nous pourquoi.
La Convention internationale de 1989 a révolutionné notre vision de l'enfant. Il a désormais des droits face aux adultes. Par exemple, en France, un jeune peut, jusqu'à 25 ans, exiger que ses parents pourvoient à ses besoins. En Allemagne, des ados ont intenté un procès à leurs parents sous prétexte qu'ils entraient dans leur chambre et fouillaient dans leurs affaires. Cet exemple paraît extrême, peut-être, mais il prouve à quel point les mentalités et les droits ont évolué en Europe.
Mais dans les pays du tiers-monde, la situation est bien différente, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai. Dans les textes de la Convention, par exemple, l'enfant a droit à la santé. Mais si les médicaments génériques ne sont pas vendus dans ces pays, peut-on considérer que les droits de ces enfants sont respectés? Prenez un autre droit, celui aux jeux et aux loisirs. Le problème, là, c'est que la Convention n'interdit pas l'enrôlement dans les armées à partir de 15 ans. Résultat, le nombre d'enfants soldats ne diminue pas. Alors, on voit bien que la réalité est bien éloignée de la situation idéale des textes de la Convention. Et c'est clair qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de considérer que tous les enfants naissent et demeurent égaux en droit.
Merci, Paul. L'ONU a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant le 20 novembre 1989. Elle a été ratifiée par 190 pays, à l'exception des États-Unis et de la Somalie. Mais cet accord n'a pas vraiment amélioré la situation des enfants partout dans le monde. Paul Ariès, expliquez-nous pourquoi.
La Convention internationale de 1989 a révolutionné notre vision de l'enfant. Il a désormais des droits face aux adultes. Par exemple, en France, un jeune peut, jusqu'à 25 ans, exiger que ses parents pourvoient à ses besoins. En Allemagne, des ados ont intenté un procès à leurs parents sous prétexte qu'ils entraient dans leur chambre et fouillaient dans leurs affaires. Cet exemple paraît extrême, peut-être, mais il prouve à quel point les mentalités et les droits ont évolué en Europe.
Mais dans les pays du tiers-monde, la situation est bien différente, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai. Dans les textes de la Convention, par exemple, l'enfant a droit à la santé. Mais si les médicaments génériques ne sont pas vendus dans ces pays, peut-on considérer que les droits de ces enfants sont respectés? Prenez un autre droit, celui aux jeux et aux loisirs. Le problème, là, c'est que la Convention n'interdit pas l'enrôlement dans les armées à partir de 15 ans. Résultat, le nombre d'enfants soldats ne diminue pas. Alors, on voit bien que la réalité est bien éloignée de la situation idéale des textes de la Convention. Et c'est clair qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de considérer que tous les enfants naissent et demeurent égaux en droit.
Merci, Paul. Section 5. Lisez maintenant les instructions pour la section 5.
Après le gel et la canicule, la récolte du Beaujolais nouveau sera, selon les producteurs, en baisse de 40% par rapport aux années passées. On évoque même un risque de pénurie. Après le gel et la canicule, la récolte du Beaujolais nouveau sera, selon les producteurs, en baisse de 40% par rapport aux années passées. On évoque même un risque de pénurie.
Les ventes d'abonnements à l'Internet à haut débit explosent. 50 000 personnes y souscrivent chaque semaine et les fournisseurs ont du mal à répondre à la demande. Les ventes d'abonnements à l'Internet à haut débit explosent. 50 000 personnes y souscrivent chaque semaine et les fournisseurs ont du mal à répondre à la demande.
cris de panique quand un incendie a ravagé leur immeuble dans le centre de Morlaix, le père et la mère de Pauline, 4 mois, et Thomas, 2 ans, les ont littéralement jetés par la fenêtre au lieu d'attendre l'arrivée des pompiers. Fort heureusement, 2 policiers les ont récupérés sains et saufs dans leurs bras. Pris de panique quand un incendie a ravagé leur immeuble dans le centre de Morlaix, le père et la mère de Pauline, 4 mois, et Thomas, 2 ans, les ont littéralement jetés par la fenêtre au lieu d'attendre l'arrivée des pompiers. Fort heureusement, 2 policiers les ont récupérés sains et saufs dans leurs bras.
Derne Trialog. End of test.